Charles Lane.
Et pierre, faible glace, hey. Ouh, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Oui, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la réponse, pas de glace. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Oui, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la réponse, pas de glace. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.
Ça va mieux quand je nous rajoute au stream.
Yeah, bro. What's up, tout le monde?
Allô, ma gang d'Inuit dyslexique de la contrée lointaine de la Transylvanie Sud. Esti, comment ça va? C'est l'Hypoke Podcast.
Yep, here we are.
Here we are as fuck, mon petit chum. Grégory Saint-Pierre, comme vous voyez, n'est pas présent. Il souffre gravement des allergies, man. Ce que je le feel, man, à cet instant de l'année. Moi, j'en fais pas autant que lui. Mais ça me pogne une fois de temps en temps. Puis calisse, il paraît qu'il a la face tout enflée le matin puis qu'il fait juste se renifler puis qu'il n'a pas envie d'être on camera. Donc, on a callé the number one short notice guy of the iBook Podcast, Maxime Carabit!
Yeah, man! Mais yo, ça aurait été fou que Greg il fasse ça avec un masque, man!
Genre, comme le petit gangster qui prend une photo hier, proche du parking.
Ouais! Avec une cagoule, big! Greg, t'aurais dû mettre une cagoule!
Une cagoule avec juste ses yeux, genre « What up?
I book Yo, ça va? »
Yeah, fait qu'on est présent cette semaine pour... je sais pas pourquoi tous mes setups sont défaits, le gros. Je suis en train de recréer genre le background du podcast, comme je te parle. Et c'est ça, gros. Cette semaine, on a quelques affaires à parler. Pas tant que ça, hein? Tranquille comme semaine, quand même, dans le monde des nouvelles, là, slow.
Ouais.
On a eu un événement hier. Bon, on va en parler. Il y a eu un bon petit combat, quelques bons petits moments. Mm-hmm. Et c'est ça. Mais en général, ça va, toi, mon Max? D'un, thank you pour la short notice. Comme à l'habitude, t'es crissement clutch. Mais quand ça va, toi?
Top shape, mon boy, man. J'ai crissement bien dormi. des bons petits combats hier. Fait que, ouais, man, je suis ready to go, man.
Let's do it. Donc, j'ai quasiment envie qu'on start avec la carabine d'or cette semaine, honnêtement.
Shoot ça, Big.
Pour la raison que, Big, la semaine passée, les internets, OK, nous ont empêchés de présenter la carabine d'or sur le podcast, man.
C'est les Russes, man. Je donne pas assez de carabine d'or aux Russes, man. Fait que là, ils ont voulu fucker le shit, man.
Je pense bien que c'est ça, parce que... Je faisais le podcast, je disais, ah, des fois, j'en reçois pendant le podcast, fait que là, je stresse pas avec ça, tup, je fais le podcast, là, je disais, ah, bon, la carabine d'or, il est peut-être arrivé quelque chose, c'est pas grave, tu sais. Puis là, après, j'avoue sur Twitter, j'avoue sur Instagram, je dis, ah, c'est bien bizarre, ça, calisse. Puis là, finalement, à 9h30, je sors de ma douche avant d'aller travailler, puis, man, je viens de recevoir la calisse de carabine d'or à genre 21h20 le soir, précisément 9h20 après le podcast. Donc, je vais les poster sur la page. Mais on va y aller avec la carabine d'or de cette semaine en commençant le podcast. Comme ça va faire, comme on aime faire, un peu nous orienter, diriger. Nous diriger sur les choses qu'on a envie de discuter de cette digne carte de MMA.
Yes,
et puis là,
sir.
Je mets du temps parce qu'elle load, là, t'as peur. ma stratégie, là, je check la petite affaire.
Ah, ben, je suis stoked sur celle-là, man. Je suis stoked. Fait que j'espère que vous allez aimer ça, les gens, man. Je mets bien des efforts sur la carabine d'or.
Ben ouais, man, c'est un trophée important, pour vrai. Là. C'est un trophée remarquable. La voilà, la colise à carabine d'or de la semaine. Est-ce en primeur à Book Podcast, on est prête. Let's go. Bon.
Hey yo, what it do, bande de pommes de route momifiées. Vous le savez déjà, si je suis là aujourd'hui, c'est pour remettre la carabine d'or de l'UFC Fight Night Vegas 29, Korean Zombie face à Danny Gay. Pow, 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 c'est la carabine d'or. Pow, 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 c'est la carabine d'or. Pow, 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 c'est l'heure de la carabine d'or. Tout d'abord, grosse mention honorable à ma girl, Virna Jandiroba, qui est allée d'une solide performance pour terminer son adversaire au deuxième round. Grosse soirée pour la Corée du Sud aussi hier soir, les chums. Korean Zombie, solide performance. Puis il y a le homie Choi, qui est allé d'une solide gauche pour coucher son adversaire, puis il l'a terminé au sol. Bruno Silva a complètement éteint les lumières de son adversaire avec un ground and pound vicieux. Mais cette semaine, la carabine d'or, elle s'en va un immortel, un vétéran de l'UFC. J'ai nommé Matt fucking Brown. Matt Brown met la main sur la carabine d'or alors qu'il termine son adversaire Diego Lima avec une grosse droite direct sur le pif. Pas de misère à croire que Matt Brown va savoir quoi faire avec un fusil. C'est tout pour aujourd'hui les chums, on se voit la semaine prochaine.
Yeah, Matt Brown.
Non, ouais, pas le choix, Big, écoute. Ben, c'est le moment qui nous a fait lever notre siège hier, là, fait que...
Définitivement, dans un combat qui se dirigeait un peu dans la direction classique Douglas, de classique Diego Lima fight. Genre, tu sais, il était pas super actif, il a des petits calf kicks, il travaillait avec son jab, essayait de ne pas se faire complètement allumer par Matt Brown. Ça a réussi, man. Principalement, je te dirais que ça a réussi.
Pendant 12 minutes.
Exactement, ouais. Jusqu'à temps que ça réussisse plus. Puis quand ça a pu réussir, ben sacrément, ça a été one punch and out, mon gars. La nuit, là, le noche.
Ouais, il est tombé, là, en plus, là. Genre, tu sais, tout était là. Il est tombé comme la petite girafe, là, qui sort du de sa maman.
Ah oh, ouais, le faceplant, le walk-off KO, toute la patente. Donc, ouais. Là, Matt Brown, est-ce qui...
Puis comme je t'ai dit, Big, s'il y en a bien un qui sait quoi faire avec une carabine, c'est clairement Matt Brown. Là.
Et sacrément, mon gars. Je suis pas sûr que j'aimerais ça qu'il se promène en liberté dans ma ville avec une carabine dans les mains, mais...
Non, non, dans son ranch, le gros, là, whatever. Là.
Yup. Ouais, fait que belle performance. Il est encore là, man. Ce qui est, je pense que la seule chose qui est importante pour Matt Brown à ce stade-ci de sa carrière, c'est juste d'être encore là, de gagner. Puis... T'sais, on s'entend, il va pas vraiment graver les échelons de la division à nouveau. Il va pas vraiment faire rien d'autre qu'être dans des fun fights. Fait que je pense que ça lui donne la chance un autre fun fight là, t'sais, dans le futur.
Ah, on l'aime bien, Matt Brown. Là, fait que bien content pour lui.
Yep, c'est quoi, t'as-tu une idée vite de même? Qu'est-ce que t'aimerais voir pour Matt Brown?
Lui, il est à 170, hein, Matt Brown?
Ouais.
El Kokoui, peut-être? Un petit Tony F?
Ça pourrait se faire. Ça serait un bon drop de compétition pour Tony, mais plus lourd. Ça peut être un bon combat. C'est un weird fight, mais c'est un bon fight. Moi, ouais. Je pensais à... Je sais pas si c'est méchant. C'est peut-être un peu essayer de rub genre le... Genre du fame off Matt Brown pour le donner à un plus jeune, mais quelqu'un qui était sur la carte, genre Chaos Williams.
Ouais, c'est une bonne idée, ça, avec.
Tu sais, comme ça pourrait très mal finir pour un comme pour l'autre. Ça serait un combat où on serait comme sur on the edge of our seats. Je pense que ça pourrait être intéressant.
Sinon, toi, tu le mettrais qu'un prospect là, en venir là.
Ben en fait, je le mettrais qu'un action fighter, tu sais. Quelconque. Là, c'est Chaos Williams, il était sur la carte, fait que le timing marche, mais Big. Si tu veux donner le gagnant de Nico Price, Michel Pereira, regarde-toi, mon chum, là. Tu comprends? Il n'y a pas vraiment de... Tout ce qui est dans action fight, là, les fun match-ups, je veux pas le voir contre... j'essaie de passer un prospect, tu sais, juste mettons Hamzat Shmaev. Je veux pas voir ça, tu comprends? Je veux pas le voir contre un prospect on the rise qui va essayer de ne pas faire un fun fight avec lui. Mais c'est quelqu'un comme Chaos Williams, même Matthew Semelsberger, ou n'importe qui va vouloir échanger. Let's do it, mon gars. Je pense que c'est pour ça qu'il est là. Sinon, ouais. T'as parlé de Virna Jandiroba. Je pense que c'est la seule autre affaire qui mérite d'être mentionnée sur les prelims. Ben, il y a Rick Glenn qui a gagné en 37 secondes.
Ouais, ouais, c'était cool, ça aussi. Ouais.
Ouais, Joachim Silva qui.
Je sais pas trop. C'est sa révérence, man.
Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, t'as comme. J'ai l'impression que c'est brésilien un peu comme affaire ce qui arrive. C'est arrivé souvent des Brésiliens qui sont arrivés dans l'UFC, puis les 3-4 premiers combats, oh shit, ils knockent du monde, ils finissent du monde, puis t'es comme, oh shit, Joachim Silva, ça, c'est un prospect, ça, il est under rise dans la division, puis là, oh, une défaite, puis là, une autre défaite, puis là, il vient de prendre quoi, 2-3 ans de break, puis là, revient, se péter en 37 secondes, donc c'en est comme un autre genre de Brésilien qui s'est auto-détruit à un moment donné, on sait pas trop où, puis... C'est bizarre un peu la trajectoire de sa carrière, mais parle-nous du full striking de Virna. Là. Je pense que c'est ça le highlight.
Ah, du gros level, man. J'ai vu un fighter en plus la vanter, man. Il était stoke sur Johnny Robo. Je me souviens pas c'est qui, mais il a dit good striking. Puis tout, j'étais genre, bro, niaise-nous pas. Mais fun fighter, man. Johnny Robo, je vais tout le temps être stoke d'avoir dans la cage. c'est pas du high level technique, mais je suis bien content pour elle, man. Elle a éclaté le bras à Murata, man, dans un armbar, man. Fait que c'était spectaculaire, man.
Yes, for sure, man. Puis.
La pauvre Murata, man, qui se bat tout le deuxième round avec son bras qui
complètement passe, scrap, man. Hein?
Ça fait deux semaines de suite que les refs, ils ratent ça, là, des bras là, arrachés.
Ah, des bras. Son bras, il est pas. Il était pas, tu sais, tu voyais pas le coude genre popé de là à tout bout de champ. Mais tu vois vraiment, la fille est debout, puis elle a un bras dans les
autres. Ah ouais.
Elle a son autre bras, genre ici, qu'elle est pas capable de rien faire. Puis t'as toutes les. Je pense que c'était son bras gauche qui était même, ça faisait que toutes les droites, tu sais, à Jandy Roba l'endait parce que la fille est pas capable de lever son bras plus haut que ça.
Ouais.
L'arbitre est genre. Pas sûr, il attaque le rond de genre ça.
Ouais. Le médecin, gros, ça faisait pas deux secondes, la cloche était sonnée, il était déjà dans l'octogone en train de dire c'est fini.
Ouais, c'était qui ça? C'était Chris Tognoni en plus, ce ref-là, me semble.
Je suis pas sûr, c'était Chris.
En tout cas, si c'était pas Chris Tognoni, c'était un semblable parce qu'il a pas fait une grosse job.
Ah, exact. Mais Mark Smith, il n'arrache un peu aussi, là. Il était là hier, je me souviens pas si c'était Mark Smith, mais anyway, on parlera pas des refs.
Pas rien que ça à faire. Peut-être plus tard, mais pas de suite.
Ouais.
Wellington Thurman, Bruno Silva.
Ça, c'était violent, man. C'était violent.
Combat qui existait, man. Puis là, ça existait beaucoup, même, je te dirais. Puis là, un moment donné, c'était allé au sol. Puis là, Bruno Silva, il a fait « Hey, pourquoi je te lène pas genre deux petits crochets bien flush sur le menton? » Puis là, il a fait ça. Puis il l'a complètement knocké, man.
Ah! C'est rare, ouais. C'est... Des gars knocking de même en ground and pound, là, il était dans sa garde en plus, hein, je pense. Genre, bro,
ouais.
Ouais. C'était des coups secs.
Des fois, tu vois genre, le changement de momentum de même debout, mais c'est rare que tu vois ça au sol, genre.
Ouais, ouais.
Quand à l'espace de un ou deux coups de poing, t'es comme le gars
bam,
est correct.
Bam.
Le gars est pas dans une bonne position, mais il est correct. Le deux coups de poing, puis les yeux virés dans la tête, puis genre, oh,
ouais.
C'est rare que tu vois
là-dessus,
ça.
Là-dessus, on peut donner un props au ref. Le ref était rapido presto là-dessus, parce qu'il aurait pu en manger une coupe d'autre.
Oh, ouais, définitivement.
C'était très violent, man. Très violent. Ça a passé proche de mériter le trophée, ça.
Yep, sans aucun doute. Puis ça nous mène à Julian et Rosa Sung Woo Choi dans un combat qui, écoute, je suis content du résultat, j'aime beaucoup Sung Woo Choi. C'était un peu triste pour Julian et Rosa, par exemple, honnêtement, parce que ce gars-là, tu sais, il était in and out de l'UFC beaucoup dans sa carrière. C'est un gars qui était réputé avant quelques années comme étant, tu sais, le fighter qui va être champion de presque n'importe quelle promotion régionale, mais qui est pas, que sa game a translate pas vraiment au niveau de l'UFC. Ça, tu sais, ça marche pas vraiment pour lui. Puis, là, il a fait un retour, puis il a eu une couple de bons comeback wins contre des bons adversaires, puis il était sur une séquence de 3 victoires consécutives dans l'UFC. Puis, tu sais, pour la première fois de sa carrière, on se disait, hey, peut-être que, tu sais, pas Julian Erosa va devenir un top fighter, même pas un top 15, même pas proche de là, mais va devenir, tu sais, un bon middle of the pack action fighter dans l'UFC. Tu sais, après des victoires, il a fini Sean Woodson. C'est un gros comeback. Nate Landwehr, en plus, flying knee, juste après 56 secondes, la victoire. Mais, tu sais, c'est peut-être là que Julian Erosa devient un bon, raisonnable UFC fighter. Puis, man, sa petite winning streak qu'il avait réussi à se développer s'est fait stopper sur un moyen temps là, hier par Sung Woo Choi, qui en est un autre, ça, qui est rentré dans l'UFC, perdu. Puis, on était là, il me semble, il est bon, pourquoi qu'il perd? Puis là, il vient de gagner ses 3 derniers combats, puis... Il y a une fiche de 3-2 dans l'UFC. Puis quand tu re-regardes ses défaites en rétrospective, ben tu te rends compte que c'est genre Gavin Tucker puis Movzar Evloev. Là, fait qu'il aurait pu faire pay, mettons. Fait que deux trajectoires de carrière différentes un peu. Je trouve ça plate un peu pour le boy Rosa. Je l'aime, là, son style. C'est un combattant amusant, mais il a tendance à, quand il se fait pincer solide au premier round, de ne pas être capable de s'en remettre. C'est vrai ça qui est arrivé ici, là.
J'ai l'impression même qu'il s'est plaint un peu du stoppage. Là. Il avait l'air de dire que c'était un early stoppage, mais c'est juste qu'il s'est fait éteindre puis allumer tout de suite après, fait qu'il n'a pas eu conscience. Là. Dommage pour lui, mais c'est pas un pied de céleri, man. Sung Woo Choi, là, j'ai bien hâte de le voir avancer dans les 145. Toute une puissance, le chum. Fait que Rosa a pas été... C'est dommage, effectivement, mais écoute, retourne sur le drawing board, comme ils disent, le jeune, puis pas de misère à croire qu'il peut te faire un petit strike win pour t'en mettre sur le piton, mon Faber.
Yup. Je ne m'attends plus vraiment à grand-chose de lui. Mais tu sais, s'il peut juste être là, puis un peu comme Matt Brown, mais sans avoir eu la carrière de Matt Brown avant. Là.
145 livres, c'est straight killer en plus. Là, fait que c'est
ouais,
pas
c'est
facile.
Ça, c'est ça, exactement. Il n'y a pas grand nom dans la division que tu vas lui donner. Puis tu vas être genre, oh, easy fight, ça, mon Julian. même dans le bas de la division, les gens sont raides en esti. Mm-hmm. Fait que sinon, Chito Vera, Davy Grant, combat en
fight of the night. Fight of the night.
For sure, for sure. Combat en deux moments. Classique Chito, je te dirais.
Ouais, genre, tu l'avais dit, mais tu le disais bien raide.
Il y a des très bons moments ici et là dans le combat, mais ne gagne absolument presque pas aucune des 6-7 premières minutes du fight. Puis c'est direct au deuxième round quand il y a Lander step-in elbow, puis il a fendu la face à Davy Grant au complet, puis il s'est rasgé, on dit « Chris, hey, ça marche ça, des coups de coude finalement. » Puis c'est à partir de là qu'il a plus cherché le clinch, Lander des coups de genoux. Puis ça a complètement changé la dynamique du combat. Tu sais, David Grant était capable d'avoir les meilleurs moments dans le grappling, j'ai l'impression, avant ça. Puis quand Vera commençait à le punir, ben, il fait mal, puis à le fendre. La dynamique debout, la dynamique au sol a complètement changé du tout au tout. Puis là, Marlon Vera s'est sauvé avec la victoire quand même assez facilement. Là.
Ouais, ouais, j'ai l'impression que David Grant a une meilleure boxe, mais le Muay Thai de Marlon Vera est rentré en ligne de compte parce qu'il est complètement arraché à la face, si le graffini comme tel un chat l'aurait fait. Man, c'est la première fois que je voyais ça, là, mais après le combat, il semble que c'est un coach corner de Vera, il a vu Davy Grant, puis il a fait genre « Hey! Bon combat, Big! » Genre, il était magané, là. Fait que c'est un sale combat, ben du sang, je suis stoked pour Chito, man. Il a pas de l'air de ça, en plus, je trouve, le fighter qui revient sur des comebacks, puis tout, là, il y a, tu sais, un petit frame, puis tout, là, d'après moi, mais Marlon Vera, quand il se fait péter, il se fait péter, mais non, il est revenu, puis Davy Grant, il roulait dessus là, au premier round pis tout. Il y a même des juges qui l'ont donné à Chito. Mais non, man, gros fight. Je suis bien content. C'est le fight of the night. Il n'y a pas de décision contre là-dessus, man. Fait que non, gros non, fight, man.
Oh, absolument. Ça nous mène au commun event. Est-ce que c'est la fin pour Olenik, basically? Est-ce qu'on doit le laisser aller gagner sa 60e victoire ailleurs que dans l'UFC?
Hey, ouais, man, va-t'en à KSW, Big, ou je sais pas, là, de quoi de même. Là. C'était pas excitant, là, c'était pas, tu sais.
Parce que là, présentement, la situation pour Olenik, c'est 5 défaites dans ses 7 derniers combats. Ses victoires étaient à 2 victoires consécutives, une par clé de bras contre le très bon grappler Maurice Greene. Et une victoire par décision partagée qu'on se rappellera toutes face à Fabricio Verdum, où les deux là, étaient complètement gassantes après genre les 4 premières minutes du combat. Puis c'était littéralement un concours de qui allait survivre jusqu'à la fin, genre sans mourir des suites de causes naturelles, basically, dans la cage. Là. Puis ben c'est Olenik qui est pas mort de causes naturelles dans la cage, donc ils ont donné la décision. Mais écoute, ce combat-là, c'était. J'aime même pas y repenser, là, honnêtement.
Ah, Spivach Olenik, c'était pas fou non plus, man.
Non, ben, c'est ça. Tu sais, quand t'es rendu à un stade où, genre, Alexei Olenik peut se faire out-grapple, c'est comme... Oui, on le savait que Spivach, s'il gardait ça debout, il y avait plus de chances, même si c'est absolument pas un striker. Mais, tu sais, Olenik non plus. Mais Spivach a eu des moments où c'était allé en demi-garde, il est allé de ground and pound, il est allé de plein d'affaires, puis...
Hey, solide brain freeze, man, de mettre ça en co-main event, sérieux, là, ouf!
Ouais, hein, mais je sais pas, le gros, man, c'est sûr que en rétrospective, il y a plusieurs combats que tu dis, ok, tu peux mettre Marlon Vera, Davy Grant, là, puis c'est un bien meilleur lead-up à ton main event, mais comme avant la carte, tu regardes le line-up qu'on avait entre les mains, puis t'es genre, man, c'est vraiment un main event puis 11 combats. Là, fait que tu peux vraiment mettre n'importe qui là, en co-main event. Ouais. Olenik, c'est le deuxième... Deuxième, troisième nom le plus connu sur la carte. Écoute, je sais pas, tu mets-tu Marlon Vera avant Olenik, toi? En termes de popularité, là, de...
Gros, j'aurais mis Sam Ellsberger contre Chaos Williams à cette place-là, man.
Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, par exemple. Ça a été quand même un beau combat back and forth, puis ça aurait mérité d'être à la main card. J'aurais même mis ça devant, là, tu sais, Wellington, Thurman, Bruno Silva. C'était hot, oui, il y aurait un beau knockout, mais ça aurait pu être ses prelims, ça, là. Bref, tant qu'à chialer sur l'ordre de la carte, parlons du main event. Qu'est-ce que t'as pensé de la performance du Korean Zombie?
Superman, j'ai l'impression qu'il il a pas voulu être, tu sais, genre, il a pas voulu être flashy, il a pas voulu faire de quoi d'extraordinaire. Il s'est dit, gars, ce combat-là, j'ai besoin d'une victoire, j'y vais. Bon fight, man. Il était clairement meilleur que Danny Gay. J'ai pas été estomaqué par la performance du Korean Zombie, mais je suis bien content qu'il ait été chercher la victoire. Danny Gay, ça lui prouve qu'il n'est pas encore arrivé dans le top 5, top 6 des featherweight. Comme on l'a dit, c'est une division complètement meurtrière. Fait que on le savait déjà un peu que Korean Zombie était meilleur que Ige, puis c'est juste ça que ça nous a prouvé hier.
Ouais, c'est ça exactement. C'est, je pense que ça a été un bon main event. Comme d'habitude, le combat de Korean Zombie, c'est toujours bien, là. Il y en a qui sont incroyables, mais la moyenne pour un combat de Korean Zombie, surtout plus récemment, c'est bien. C'est plus genre exceptionnel comme c'était
Ouais.
avant. Mais j'ai l'impression que Korean Zombie, ça fait des années qu'il parle que lui, il veut vraiment devenir champion du monde. C'est vraiment ça son but. C'est pas juste être un action fighter, c'est pas juste être genre le gars le plus fun dans la division. Puis il veut vraiment devenir un champion. Puis j'ai l'impression qu'hier, pour la première fois, j'ai pas vu un champion. Je pense pas que si tu le mets contre Volkanovski ou contre Max Holloway, il va gagner, loin de là. Mais j'ai vu un style de combat qui s'approche plus à celui d'un champion.
Ouais, man, Volkanovski a 10 fois plus de power que Ige, mais genre, si Korean Zombie est capable de se battre comme ça, je le verrais bien pour un combat contre Volkanovski éventuellement.
Ouais, ça pourrait être plus compétitif que si tu as le classique Korean Zombie qui défend tout avec
Exact.
sa face puis qui court après son adversaire. Parce que là, vraiment, il est plus. Puis tu le vois, puis c'est ça qui a fait que. Je pense que la différence entre un bon combat puis un excellent combat dans ce combat-là a reposé un peu sur les épaules de Danny Gay. Parce que tu l'as vu clairement quand il rentrait dans la pocket, genre là, je m'en calisse, je vais en lander une bonne, je vais te plugger le zombie. Tu voyais que Zombie counterait en combinaison avec du power. Fait que j'ai l'impression que si Ige avait fait ça tout le combat, ça aurait été ça le combat. Mais Dan Ige s'est comme rendu compte après quelques fois que ça n'allait pas le faire, là. Ça n'allait pas réussir cette approche-là. Il se faisait counter super clean avec des power shots, puis plus qu'une power shot à chaque fois qu'il rentrait. Donc c'est juste Dan Ige qui s'est dit, ah, il faut que je trouve une approche plus intelligente à ça. Puis là, il était plus hésitant à rentrer. Puis Korean Zombie est vraiment de plus en plus un Counter-Striker dédié qui va pas vraiment, tu sais, il va lead avec un jab, va lead avec des strikes comme ça, mais il va plus lead comme avec une combinaison de 8 punches, genre que toi, tu vas pouvoir le counter. C'est plus lui qui essaie de te counter à cette heure. Puis aussi le fait de lander des takedowns, ça a toujours été un bon grappler, le Korean Zombie. Le premier gars à passer un twister dans l'UFC, de nombreux, tu sais, des darts, des soumissions de toutes sortes, mais juste d'aller chercher des takedowns pour gagner des rounds, pour dominer le combat, c'est pas quelque chose qu'on voyait du Korean
Non.
Zombie avant. Fait il a vraiment ajusté son style pour devenir plus un championship fighter qu'un action fighter. Je
Ouais.
pense pas que ça va marcher pour lui. Je pense pas que ça va le servir. Je pense pas qu'il va devenir plus populaire comme ça. Je pense pas qu'il va gagner un titre. Il peut être un des 4-5 meilleurs dans la division. Mais s'il se bat comme ça contre Yair Rodriguez, je pense qu'il y a des très bonnes chances. Déjà que c'est un combat qui gagnait, le Korean Zombie contre Yair Rodriguez debout. Je pense que s'il se bat comme ça contre Yair, il y a des bonnes chances. Tu le mets contre n'importe qui dans le top de la division, je pense qu'il y a des bonnes chances. Mais quand tu arrives à Max Holloway, tu arrives à Volkanovski, je pense que des combattants plus jeunes, plus athlétiques, puis tu sais, je le vois mal takedown Alex Volkanovski de même aussi, là, on s'entend là.
Contre Cater, ça pourrait être un bon fight, man, prochainement pour
Contre
Zombie.
Cater, c'est le fight, puis je pense que c'est le fight qui pourrait faire sortir une plus vieille version du Korean Zombie. Parce
Ouais.
que Cater, on l'a vu, il est à là. Lui, il va rentrer avec une combinaison de 4 punches, puis pas trop care de comment il se fait frapper en retour.
Ouais. Ouais, ça serait un
Bon.
assist fight, ça.
Bon, on disait ça de Danny Gay aussi avant, mais je pense Cater contre
Ouais, parce que
Colby.
les deux ont quand même passé sur Ige, là, fait que ce serait bon de savoir. Puis tu sais, même le gagnant, ben OK, il reste dans le top 5, puis l'autre, ben, tu commences à lui donner des gars d'un petit peu plus top 10, là.
Yep. Alexis qui dit aller voir Poirier contre Zombie. Pour vrai, c'est un des fights les plus underrated de tous les temps. Là. Ce Poirier contre Zombie, là, c'est genre un de mes 5 combats préférés dans ever, probablement.
Allez voir ça, man.
Yup, donc, man. Parle-nous de la décision de Rory McDonald, man.
Ben, tu sais,
Explique-nous à quel point c'est de la petite bullshit, man.
C'est de la bullshit, Big. C'est de la bullshit comme Shifley qui dit que son hit était clean sur Evan. C'est de la bullshit comme Gary Bettman qui fait pas sa quarantaine puis qui vient checker des games à Montréal, Big. C'était de la grosse bullshit. Gleason Thibault, tu sais, faut rien enlever. Il faut rien enlever, là. Il a fait son fight, là, mais c'est Rory qui méritait ce fight-là. Il aurait peut-être dû pousser un petit peu plus, mais gars, c'était. Parce que tu sais, on le sait, là, tu veux jamais laisser ça aller dans les mains des juges, peu importe le fight qu'il y a eu. C'était clairement un des vols de l'année, là, sur l'échelle du Powell, là, c'était dans le Powell big time.
Big.
Zachary Powell, il a vu ça, puis il a fait genre, ok, ben, c'était pas si payé, moi, finalement, là, genre.
Genre, honnêtement, là, je peux pas vraiment croire que on allait sortir le Zachary Powell scale si vite que ça.
Ouais, ouais. Ouais, mais écoute.
Genre, je me disais, c'est comme, on va voir des décisions de merde, genre, dans le restant de l'année. Ça arrive, il y en a sur toutes les cartes ou presque. Mais genre, une décision de merde à ce point-là, si rapidement, genre, qui vraiment, comme tu as dit, là, me fait me poser la question, quelle est la pire décision de l'année? Zachary Powell contre Dario Sinagoga ou Rory McDonald contre Gleison Thibault? Puis man, genre, je vais pas réécouter le fight à Zach parce que je m'en rappelle le style d'un, ben je l'ai vu genre 15 fois. Là.
Ouais.
Mais il faudrait que je réécoute celui à Rory Thibault parce que la compétition entre les deux est là. C'est comme vraiment des décisions de merde comme j'en ai rarement vu. Puis écoute, man, genre...
C'est deux décisions de merde, le gros, mais c'est quand même différent parce que comme on a jasé hier, elle à Powell, c'est juste... À moins qu'on sache pas on sait pas c'est quoi qui se passe dans BFL, mais c'est juste un juge qui a foiré, tu sais. Tandis que PFL, là, on peut y aller plus du côté du complot, tu sais.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est direct là, je m'en vais. C'est pour ça que j'essaie de penser à la manière que je vais amener ça, pis tout. Mais dans le fond, je peux faire ça comme juge, je m'en calisse, si m'écoute pas eux autres.
C'est ton show, biggest.
Yeah! Bon, mais c'est ça, écoute. Genre, basically, moi, je suis pas un gars de complot, ok? Je suis pas un gars de complot, je suis pas un gars de conspiration, je suis pas un gars de rien de ces affaires-là. Chaque fois qu'il y a des accusations de tel fight c'était fixe, Jake Paul contre Ben Askren c'était fixe. Je crois pas à ça, ok? Je crois pas à ça, ces affaires-là. Mais plus je regarde la PFL, particulièrement cette année, les autres années d'avant aussi, mais particulièrement cette année, plus je me dis que c'est rig, là, ce type d'affaires-là, man. Honnêtement, là, parce que, premier exemple, puis. Je pense que c'est rigged dans plusieurs aspects. De un, dans le format, OK? De deux, dans l'application des règles qu'ils inventent. Je pense que des fois, ils inventent juste des règles un peu sur le fly. C'est genre, oui,
ouais, là, on dirait qu'ils se sont donné...
Ouais,
ils se donnent des options, genre, pour être capable de tricher, genre.
Exactement. Puis ils ont clairement target, avant même le début de la saison, des fighters qui voulaient pousser, des fighters qui vont... T'sais, Anthony Pettis, Nathan Schultz, Esti, Rory McDonald,
Fabricio Verdum.
Fabricio Verdum, Kayla Harrison, exactement. Tous ces gens-là.
Clarissa Shields.
Genre, ils vont tout faire à leur pouvoir pour que ces gens-là fassent les playoffs, basically. Puis j'en ai une couple d'exemples de ça. D'un, l'exemple Oli Aubin Mercier, qui est assez clair. J'en ai parlé sur le podcast. Oli n'a pas été en mesure de faire son premier combat. Il souffrait d'une blessure et tout. Il a perdu un point au classement. Si c'est ça ta politique, j'en ai pas de trouble avec ça. Moi, personnellement, si c'est ta politique, c'est ça ta politique, le gros. Je suis pas là pour discuter de tes règles. Ben, c'est toi qui as décidé. Tu penses que c'est la meilleure chose à faire? Fais ça. Mais fais ça pour tout le monde. Quand Pettis peut pas se battre, reboucle-le pas deux semaines plus tard. Quand Lance Palmer peut pas se battre, reboucle-le pas deux semaines plus tard. Surtout qu'ils ont perdu leur premier combat, mais que vu qu'il n'y a pas beaucoup de points, il y a encore une chance de faire les playoffs. Fait que là, tu veux pas y mettre moins un parce que là, t'es sûr qu'il le fera plus. Puis, tu sais, tu vois, ils veulent vraiment avoir Anthony Pettis dans les playoffs à lightweight. Puis, Oli Aubin, comme j'ai dit la semaine passée, malheureusement, c'était comme plus un pion, genre que s'il était là, ils sont contents, mais s'il est pas là, il s'en calisse bien, Dolly, tu sais, malheureusement. Puis c'est Pettis, c'est chaud, tu sais, ces gars-là qui veulent pousser. De là, pourquoi Oli a perdu deux points, a perdu un point, se retrouve avec seulement deux points. Mais Pettis, lui, qui peut pas se battre le jour que c'est planifié, se faire booker deux semaines plus tard. Il y a aussi les match-ups. Tu sais, les match-ups sont clairement faits pour. T'as des gars qui ont gagné, comme Martinelle, il a gagné son premier combat contre le champion. Tu lui donnes Oli Aubin Mercier. Ça, c'est clairement parce que tu veux pas qu'il gagne son deuxième combat. Tu es clé caller, tu donnes un gros combat lui avec. Pettis, tu vas lui donner genre un peu le tu sais, tu vas lowball un peu. Là. Tu vas lui donner le combat.
Manfio, il va-tu se pogner contre Raouche Manfio finalement?
Je pense que c'est. J'essaie de pull up son topologie direct là, mais je suis pas sûr que c'est contre Raouche Manfio qui va se battre.
Ouais. Ouais.
C'est très prenable pour
Pettis. Ça, c'était sketch aussi, là. Je sais pas si tu te souviens, là, mais avant que ce soit ça, là, il avait failli faire Manfio contre Nathan Schultz, puis c'était genre deux meilleurs amis. Le monde, il capotait, man, qu'il ait voulu faire ça, puis FL.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, ça a chié. Puis encore, encore l'exemple de. Ça chie au weigh-in. Il avait fait ça avec Ronson l'année passée. Ils ont fait la même affaire. Là. Ça chie au weigh-in. Puis là, ils sont genre, OK, Alex Martinez a gagné ton premier combat. Tu pognes donc Nathan Schultz, dang, genre, parce que
ouais.
Tu voulais être sûr que Nathan Schultz, genre, en tout cas, fait, la manière que les match-ups sont faits, puis tout. Tu vois, ils veulent vraiment qu'il y ait des gens qui passent, des gens qui passent pas. Ensuite.
Ben, avec Rory, tu disais aussi que c'est clair qu'il voulait le pogner contre Magomed.
Avant que j'aille là, il y a une autre affaire. Dans les 205 livres, t'as Corey Hendricks qui arrive. Il se fait péter à gueule, basically, par Martin Hamlet. Il se fait péter à gueule. Là, bang, sort un comeback au troisième round. Rear Naked Choke gagne le combat. Mais c'est son seul combat qu'il a eu, lui. Il a juste un combat. Parce qu'il était pas là pour le premier. Parce qu'il est arrivé short notice pour remplacer quelqu'un qui soit avait un problème avec la pesée. Ou
exact.
Qui s'est blessé ou de quoi. Fait que lui, il arrive short notice pour le deuxième combat de la saison.
Mm-hmm. Il sait qu'il n'y a pas de chance d'aller dans les playoffs.
Mais là, il gagne. Puis il fait 4 points. Puis là, toute la soirée. Il est là. C'est lui le dernier site des playoffs. Puis là, au dernier combat, t'as Emiliano Sordi, qui est le champion de l'année passée, qui fait un draw. Donc, il récolte un point, ce qui l'amène lui aussi à 4 points parce qu'il a gagné son premier combat par décision 3 points. Puis il a fait un draw dans son deuxième combat qui donne 1 point, donc 4. Puis là, sur le coup, ils sont genre, oui, ben là, c'est Sordi qui passe aux playoffs à cause du tiebreaker. Le tiebreaker est que lui, il a 2 combats, puis l'autre, il en a juste un. Mais il me semble que si tu es capable de faire 4 points en 1 combat, tu devrais passer avant celui qui s'en prend 2 combats, faire 4 points.
Ouais, ça fait du sens.
Mais clairement, c'est juste, on a 2 gars à 4 points. Lui, c'est le champion de l'année passée. On aime les match-ups, on le veut là.
Ouais.
Sorry, l'autre qui arrive dans la dernière minute, puis qui mérite amplement de faire les playoffs parce qu'il sort un gros comeback win contre un très bon adversaire.
Mm-hmm.
Mais non, genre, fuck you, retourne chez vous, genre. Fait que. Tu sais, c'est cave, man. Puis
c'est
après
weird.
Ça, ben, t'as Rory McDonald qui, tout le combat, sont genre, hey, imaginez la finale, si Rory McDonald contre Magomed. Mais genre, pis là, tout le long, sont là, ouais, mais tu sais, si Rory gagne ce combat-là, il se pogne en demi-finale, puis là, l'autre demi-finale, ça va être Ray Cooper contre XYZ, esti, puis tu vois que tout le long, il parle, puis c'est. Oui, Ray Cooper a gagné la dernière saison, mais la saison d'avant, c'est Magomed qui l'a gagné. Puis Ray Cooper a gagné la dernière saison parce que Magomed, c'est genre blessé avant les playoffs. Il n'a même pas pu y participer, basically. Fait que, genre, en tout cas, quoi qui est arrivé? Puis on s'entend que PFL, c'est l'ancien World Series of Fighting, qui était la promotion à Ali Abdelaziz et d'autres gens. Puis là, il est arrivé des affaires, fait que ce sont comme distanciés d'Ali Abdelaziz. Mais à chaque fois qu'il y a comme un remplacement de dernière minute, c'est un Russe qui est managé par Ali Abdelaziz, qui débarque. Puis c'est tout le temps des astides russes, des lutteurs de malades, que c'est des match-ups de marde pour tout le reste du bracket, genre. Puis selon moi, la PFL voulait Rory McDonald contre Magomed en finale cette année pour les welterweight. Puis le seul moyen que ça arrive, c'est que Rory McDonald perde son combat. Parce que s'il gagnait, s'il faisait 1 point de plus, il dépassait l'autre qui est, je pense que c'est Jacques Zeferino, là, c'est ça que je pense. Il dépassait Jacques Zeferino, puis là, il était premier, puis il affrontait le 4e seed, qui est Magomed, qui a juste eu un combat, mais qui l'a fini au premier round, donc il a 6 points, donc il rentre 4e seed, tu comprends? Mais bref, tout ça pour dire que, man, genre, je veux pas dire c'est un fixed fight, je veux pas dire ils ont manigancé avec la commission pour s'assurer que Rory McDonald perde par split decision, mais Rory McDonald a dominé ce combat-là. Si tu veux donner 29-28 à McDonald en donnant un round à Thibault, amuse-toi mon chum, mais dans ma tête c'est un 30-27, c'est un 30-27 assez clair, il y a personne qui a pas vu ça comme étant un 30-27, puis cette décision-là a pas lieu d'être, puis a tellement pas lieu d'être que l'explication que je cherche pour expliquer ça, sur une explication externe. Genre, je me dis pas, c'est juste deux juges qui ont vraiment... Tu peux pas avoir mal vu cette fight-là. Là. La seule autre manière, puis c'est ce que Holly Aubin me disait, c'est peut-être que si Rory est comme tellement bon que dès que c'est un peu plus compétitif que l'habitude, les juges pensent qu'ils perdent parce qu'il est tellement habitué de péter à gueule à tout le monde. Je pense pas que c'est ça, man. Je pense juste que la PFL, c'est rig leur colisse d'affaires, puis ils savent c'est qui qu'ils veulent dans tel spot. Puis le seul moyen d'avoir Rory dans le spot qu'ils voulaient, ben c'était qu'ils perdent ce colisse de combat-là. Fait qu'il l'a perdu, ce colisse de combat-là. Puis c'est ça qui est arrivé, puis je pense que c'est croche. Je pense que c'est de l'estime de marde. Puis j'encourage aucun fighter à jamais signer là. Parce que oui, c'est bien le fun de dire tu vas gagner 1 million, mais tu gagneras pas 1 million, mon chum. Ils te veulent pas là. Ils ont déjà le monde qu'ils veulent qu'ils gagnent. Puis c'est ce monde-là qui vont gagner. Puis ils vont tout fucking faire en leur pouvoir pour que ces gens-là se retrouvent dans la position pour gagner. Puis si t'es pas ces gens-là, tu gagneras pas. C'est ça que j'avais à dire, c'est la PFL. C'était ma rent PFListe.
Yeah, that's it, boy. C'est bien dit.
Yup, puis Exo White Blake qui demande Showtime contre Oli, ça donnerait quoi? Ça donnerait une décision unanime pour Olivier Aubin-Mercier, probablement même une victoire par soumission au round 2 ou 3.
Easy peasy, man.
Easy peasy, man. Anthony Pettis, il est plus là. Puis une autre question qui nous pose, c'est écoutez-vous d'autres chaînes d'analyse de MMA, genre la sueur ou des chaînes américaines? Des chaînes américaines, définitivement pas la sueur. gros, j'ai rien contre eux, là, pour vrai, shout out à eux. Mais moi, ça me prend tout pour écouter Pat Côté puis JP Chartrand là, à RDS. Genre, j'écoute juste ça si j'ai pas le choix. Puis c'est pas parce que j'aime pas Pat puis j'aime pas JP. J'aime la TV en anglais. Je n'écoute pas la TV en français. J'écoute pas les nouvelles en français. J'écoute le hockey en français si c'est à RDS, mais jamais à TVA Sports sous aucun prétexte. Fait que j'écoute pas la TV en français en général. J'écoute pas du contenu en français en général, à part les vidéos de mon boy Max Carabine. Puis, fait que non, j'écoute pas des chaînes d'analyse MMA en français, mais des chaînes américaines, ouais. Ben, j'ai définitivement, tu sais, toutes les, comme les MMA Fighting, ESPN, MMA, ces affaires-là. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mon podcast préféré, moi, c'est le Co-Main Event Podcast. C'est le lundi que ça sort. Tu peux avoir ça partout, là. C'est audio seulement, à moins que tu sois Patreon, là. Mais c'est audio seulement, fait que t'as ça sur genre iTunes, Spotify, toutes les plateformes audio, là, c'est présent, c'est Ben Fox qui fait ça, qui est un journaliste de MMA Junkie, à Star, il est avec The Athletic, puis Chad Dundas, il est pas à l'emploi d'aucune chaîne MMA pour l'instant, mais ça, il travaille pour genre MMA Fighting, MMA Junkie, plein de places là avec, fait que ça que j'écoute, puis aussi j'ai le channel YouTube de Bloody Elbow, où j'écoute de MMA Vivisection, qui est un preview, là, comme je fais des analyses, prédictions, comme je fais des fois quand il y a des combats que je vous le cacherai pas, là, quand il y a des combattants que j'ai aucune calisse des c'est qui, puis ça me tente pas d'aller me taper 3-4 combats de lui sur YouTube parce que j'ai l'impression que ça n'en vaut pas à peine. Ben, des fois, je fais juste écouter ce que ces deux boys-là en pensent, puis ça m'aide un peu à me forger une opinion sur le combat. Là. Fait que ça, c'est ça. Toi, t'as-tu des...
Moi, je répondrais à cette question par la seule chaîne de MMA que tu as besoin de connaître, le jeune, c'est The MMA Talk. C'est la source. C'est la source.
La source. Donc, c'est Cyril Gane Fight Week, mon gars.
Hi-ha! Ouais, man. Moi, je suis un fan des plus petites catégories de poids. Mais j'aime bien le match-up contre Volkov. T'sais, son dernier fight contre Risen Strike, ça m'a tellement pas excité, Big. Je sais pas comment me filer cette semaine à l'expectation d'un Cyril Gane Fight Week. Mais écoute, Volkov, c'est tout un monsieur. Fait que ça devrait être un bon fight. Bien excité. Bien hâte de voir ça.
Ouais. Ce que je peux voir, c'est encore vraiment une carte.
Ouais, pas rapport.
Genre. On va prendre tous les combats qui ont été annulés à cause de la COVID là, dans les derniers mois. Là, on va tous les tabarnaquer sur la même carte, mon chum.
Ouais, j'allais dire Angela Hill, mais non, elle a ce bas contre Tayshia Torres, hein, finalement.
Ouais, c'est ça. Et plus sur cette carte-là. Main event de la soirée, donc, c'est Cyril Gane, Alexander Volkov. Et puis le co-main event est peut-être un combat qui va nous intéresser. Peut-être. C'est un autre match-up de poids lourd au grand désarroi de Maxime. Et c'est le seul, l'unique Ovince Saint-Preux qui move up pour affronter Tanner Bowser.
Ouais, j'ai vu ça. Que short notice en plus, Tanner Bowser.
Oui. mais
très short notice.
Très short notice, mais il y a comme... Je sais pas trop, il a l'air fâché après son dernier combat. Il était fâché de la décision. Je sais pas s'il est arrivé de quoi ouais. avec l'UFC parce qu'il était là, Chris, rebookez-moi tout de suite que je fight out mon deal au PC, genre.
Ben, il y a eu le fait qu'à un moment donné, il a lancé un punch, puis l'autre, il pensait que c'était un high poke, puis le ref, il a arrêté le shit pendant 2 minutes. Ça, ça a pas plu à Bowser.
Non, ça, c'est sûr, mais je comprends pas pourquoi t'es fâché après l'UFC à cause de ça. Il était juste fâché en général, mais bref, ça va être le dernier combat de son contrat. C'est dangereux un peu ce qu'il fait parce qu'OSP, c'est un autre genre de 205 livres weird qui monte à heavyweight. Qui...
C'est un gros 205, là.
Ouais, puis tu sais, Bowser, je pense qu'il méritait vraiment de battre Latifi, mais j'ai pas aimé la manière qu'il s'est fait takedown et qu'il a juste passé 2 minutes sur son dos à comme « Wow, ben je gagne le combat, là, fait que je suis pas trop pressé. » Puis finalement, ben, il a pas gagné le combat, puis c'était pas une bonne décision de loin. Non. Mais quand tu regardes les mauvaises décisions des derniers temps, ça en est peut-être une que tu te dis « Ouais, ben gros, t'aurais peut-être dû essayer de ne pas passer tant de temps sur ton dos si mais tu voulais. »
Tu penses pas qu'en prenant cette fight-là contre OSP, ils ont donné genre un 3 fight?
Non.
Non?
Pas mal sûr que non. Je suis pas mal sûr que c'est le dernier fight sur son contrat. Puis que si, s'il déçoit l'UFC, le gros, tu peux prendre des short notices à une semaine de préavis. Eux autres, tu te bats pas comme du monde, ils vont te cut pareil. Il y en a rien à coller de toi. Là. T'es un de 600. Là.
Ouais. Ah oh ouais, c'est sûr, Big. Mais en tout cas, je souhaite bonne chance, man, au petit Bowser, man. On est bien stock de le voir. Fait que. OSP, là, c'est plus grand-chose non plus, là.
Non, définitivement. Puis c'est encore une esti de carte bizarre, man. Maintenant, je regarde, là, c'est bizarre, puis...
D'après-midi, en plus.
Ouais, je comprends pas la manière que l'UFC a de booker ses cartes.
Ils sont chauds pas mal.
Ouais, mettons, tu es comme sur la main card, mettons André Fili, Daniel Pineda, ça va être popé. Tim Means, Nicholas Dalby, ça va être popé. Renato Moicano, Jay Herbert, ça va être popé. Là, t'es prelims, c'est probablement le meilleur combat sur la carte qui n'est pas le main event. Raoni Barcelos contre Timur Valiev. T'as, genre, mettons, Charles Rosa, Justin James, Yancy Medeiros, Damir Radzovic. Mais à tout bout de champ, t'as des hosties de combat bâtards, mal placés, genre, pourquoi Kennedy Nzeshukwu contre Danilo Marquez, c'est genre le combat juste avant le main event?
Ouais, c'est bizarre.
C'est bizarre, c'est juste, ils sont bizarrement faits les cartes de l'UFC. Souvent, t'as un esti de top fight sur les prelims, dans le milieu de la carte, un peu perdu dans les prelims. T'as des esti de fight randoms à la main card que tu veux pas nécessairement avoir.
Mais ils ont beaucoup trop de fighters, là. Tu sais, hier, on checkait, je pense que c'est Jandy Roba, justement, là. Ou je suis pas sûr que c'est celui-là, mais en tout cas, tu checkais un fight, puis on était comme ça, je voyais pas ça dans l'UFC il y a 5-6 ans, là, tu sais. Mais là, le gros, ils ont un roster... Aussi gros que la NHL, fait qu'ils n'ont pas le choix de faire des combats moyens de temps en temps, là, tu sais.
Ouais, puis tu sais, même Jandy Roba est ranké, oui, dans le bas du top 15 de sa division, mais c'est vrai que là, une couple d'années, on voyait pas ce calibre-là dans l'UFC qui est beaucoup plus bas qu'avant, là.
Ouais.
C'est sans parler de Kamur contre Negumereanu, là, que c'était genre le main event des prelims de LFA, là.
Ouais, exact.
Fait que... rapidement, Samuel Giguère.
Le boy s'en va se battre en France.
Yup, il s'en va se battre en France contre un Français avec un nom fucking russe, man. Je pense qu'il s'appelle Islam Taisoumov. C'est vrai de ça. Il s'en va se battre contre Islam Taisoumov en France le 2 juillet, donc le lendemain de la carte à Alex Morgan. C'est pas la même organisation. Islam Taisoumov est un combattant qui a une vue. Fiche d'une victoire, aucune défaite. On se rappellera que Samuel Giguère, lui, il est 0-3 là, présentement dans sa carrière pro. Donc,
on a
la chance de se battre. C'est nice. Samouraï qui a envoyé un autre gars en France. Donc, c'est des choses qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, d'aider leur fighter à trouver des combats ailleurs quand ils n'allaient pas avoir de combat de Samouraï. Continue de faire ça. Donc, gros props à eux, évidemment, pour ça.
Mais ils sont quand même game de faire ça, hein, parce qu'ils se battent le juillet, puis leur carte, c'est octobre. Morgan et Giguère sont sur la carte d'octobre, pardon. Fait que si y en a un des deux qui mange une bonne reine, ce qu'on souhaite pas, ne pourra pas se battre sur la carte de Samouraï, man. Qu'est-ce que t'en penses?
Yup, hey, c'est moi, le main event de la carte que Giguère se bat dessus, man, c'est un combat de championnat, 165 livres. En check ça, deux bons vétérans de l'UFC, man. Mehdi Bagdad contre Thibaut Gouthi.
C'est pour le title, ça?
Ouais.
Let's go, man. Let's go.
Il y a Yvan Sorel et tout qui se bat sur la carte, qui est un vétéran là, de genre 34 combats pro là-bas. Fait que ça s'appelle Trophée des Étoiles 15 Arena Goliath MMA. C'est un esti drôle de nom, ça, mon chum.
Ça fait français. Ça fait français
en esti. Très français. Donc, AGM, je pense, ça s'appelle Arena Goliath MMA. AGM. Trophée des Étoiles 15. Donc, pour vrai, genre, shout-out à Samouraï, shout-out à Sam, shout-out à tous les gens impliqués là-dedans. Manu, là, sûrement Manu qui a un très grand rôle à jouer là-dedans. Fait que shout-out à toi, mon boy Manu. Et puis, pour le reste de Samouraï, on a eu deux petites nouvelles. Petites nouvelles rapidement. Et puis, il y a une autre affaire que je voulais vous montrer là, qui est important. Mais les deux petites nouvelles, c'est la carte. Ils ont sorti un graphique avec la carte. Et puis, il y a des combats qui ont été ajoutés là-dessus. J'essaie juste de la pull-up devant moi, mais celui qui me vient le plus rapidement en tête parce que c'est le combat que j'attendais qu'il sorte parce que c'était vraiment quelque chose d'intéressant, c'est Serge Dankos contre Yanis Azar. Puis ça, les boys, je sais pas si vous le savez à quel point c'est un esti de match-up, là. Parce que Serge Dankos, on l'a vu des fois, déjà deux fois chez les pros. C'est un tueur en série, c'est un gars de Patnos, c'est un malade, il est super jeune, c'est un des meilleurs prospects qu'on a, super athlétique puis tout. Puis Yanis Azar, c'est quelqu'un qui attend depuis fucking longtemps pour faire ses débuts pro. Là. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il devait se battre sur la carte de TKO qui a été annulée genre en octobre 2019, là.
OK.
Ça allait être ses débuts pro, ça. Puis il était prêt, là, c'est un gars, Chris, champion de nombreuses ligues amateurs, MFL, NFL, peut-être même Fight Quest. Je ne suis pas sûr s'il était champion Fight Quest, mais en tout cas, multiples champions amateurs, Yanis Azar, comme Taha Ben Daoud. Puis ça fait longtemps en sacrament qu'il attend pour se battre, ce gars-là. Mm-hmm. Et puis là, il va avoir la chance de se battre finalement. Donc, on a vraiment très hâte que ça arrive. Et puis,
c'est au niveau des 125 livres, ça, hein?
Ça devrait être 100. Ça, c'est 235 livres. Fait que je pense que pour Samouraï, ils vont se battre à 145.
OK, ouais.
Parce que, tu sais, ils peuvent pas faire des trop grosses weight cuts pis tout, là.
Ouais, ce qui est bien correct.
Ce qui est bien correct. Puis l'autre combat qui s'est rajouté, c'est Michael Généreux, Maxime Soucy. Ça aussi, c'est très intéressant. Parce que Maxime Soucy, fiche de 1-1. Il avait perdu ses débuts pro contre Matar Lo. Il avait subi un head kick quand même assez foudroyant. Puis il s'était fait passer le KO là, par Matalo. Puis il était revenu avec un gros, gros win sur Olivier Nadeau. Combat qui avait été vraiment back and forth, qui s'était encore fait sonner assez solidement dans le début du combat. Mais il avait encaissé, puis il était revenu fort. Il avait entendu que son adversaire a une baisse de régime, puis il était revenu très fort. Puis à fond de Michael Généreux, qui est le frère de Kevin Généreux, qui est un striker. Ça va être très intéressant. Beaucoup d'expérience amateur en boxe, en striking en général. Je ne sais pas c'est quoi son expérience en MMA amateur. Je ne sais pas s'il a fait des combats d'MMA ou s'il n'a pas fait des combats d'MMA. Ça, faudrait que j'y demande, bien franchement, avec vous, je ne le sais pas. Mais, genre, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience en striking. Donc, ça va être intéressant parce que Soucy, c'est un combattant qui est versatile, mais c'est un gars qui aime... Rester à range, il y a des bonnes techniques de karaté. Maxime Soucy, c'est un bon striker. Donc, je pense que ça va être un duel debout là, assez intéressant sur cette carte-là. Qui, moi, te le dis, est folle, la carte-là.
Oh,
quand
yeah,
tu regardes
baby.
Ça, là, la carte est folle. Il y a du monde qui m'a demandé, Strania, qu'est-ce qui se passe avec lui. Je ne le sais pas plus que la semaine passée ou l'autre d'avant, là, quand j'ai pété ma petite coche. Là. Ça a fait jaser, ça, d'ailleurs. Là. Mais
Ah ouais!
Ah, oh, ça a fait jaser. Mais l'affaire que je voulais vous montrer, les boys, là, puis pour ceux qui sont en train de checker, c'est important que vous allez faire ça. C'est Samouraï MMA. Regardez, vous voyez? Ça, c'est la page de Samouraï MMA qui ont fait v'là longtemps. Mais le problème avec cette page-là, c'est qu'elle est dure à aimer. C'est surtout si t'es sur un cellulaire et tout. Moi, personnellement, j'ai jamais été capable d'aimer la page, OK? Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'en ai créé un autre ici. Regardez, je vous la montre là. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Ce qui est bien important, c'est d'aller aimer cette page-là. Puis ce qu'on peut faire ici, là, puis je vais vous montrer comment faire exactement. Vous venez dans l'onglet communauté, OK? Puis là, à partir de là, vous invitez vos amis à liker la page. Puis moi, je ne peux plus le faire parce que je les ai déjà tous invités. Fait que j'aurais dû prendre un compte que je ne les ai pas tous invités déjà. Là. Mais dans l'onglet communauté ici, vous invitez vos amis à liker la page, OK? Puis ça, là, ça va faire monter le nombre de likes et d'abonnés. Puis moi, dans pas long, ce que je vais faire, c'est que je vais merger les deux pages de Samouraï ensemble pour qu'il n'y ait plus de confusion puis que ils peuvent s'occuper de leurs affaires. Mais j'ai juste fait ça parce que, tu sais, dans le fond, pour grow une page, c'est important de pouvoir inviter le monde à liker la page. Genre, si le monde ne peut pas liker, ne peut pas s'abonner, c'est compliqué un peu. Fait que pour cette raison-là, j'ai fait ça. Fait que allez tous chercher cette page-là de Samouraï MMA, allez la liker, allez vous abonner comme ça, quand je vais pouvoir merge les deux pages après. Ce qui est nice quand tu merges les pages, c'est que les abonnés des deux pages se combinent.
Mm-hmm. Let's go, man. Gros travail, Faber.
Gros travail, parce qu'on voulait régler le problème de. Tu sais, c'est dur de grandir ta page quand t'es pas capable d'inviter tes amis. Il faut que tu les envoies par Messenger ou que tu fasses un partage sur ta calisse de page Facebook. Mais tu sais, quand tu partages quelque chose sur ton profil Facebook, hey, tout le monde, allez aimer telle affaire. Il y en a qui vont y aller, mais c'est pas la majorité qui vont y aller. Quand tu les envoies une invitation directe dans leur notification, ils ont juste à cliquer sur ton invitation pour cliquer sur j'aime, puis c'est fait. Puis le taux de conversion, là, historiquement, est beaucoup meilleur. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. Fait que ça, c'est la petite actualité Samouraï MMA cette semaine. Et puis avant qu'on se laisse, mon carabine, on va parler des Knights puis des Canadiens, man.
Yeah, boy, qu'est-ce que tu veux parler, man? À combien de games on va éliminer les Golden Knights? Qui c'est qui goal à soir pour les Golden Knights?
Ouais, on peut parler de tout ça. C'est-tu le nerf qui goal? Je pense que c'était le premier à partir de la pratique à matin.
Ah ouais, j'ai pas vu ça. Ben si c'est le cas, c'est lui qui goal, man.
Mais...
Pourtant, j'avais vu Peter DeBoer après le match, il avait dit « Ah, oh, Fleury va se remettre de ça, il va oublier ça, mettre ça à la prochaine game. » Fait qu'il avait l'air, il avait l'air d'avoir laissé entendre que ça allait être Fleury again, mais peut-être qu'il voulait juste pas dévoiler ses cartes aux Canadiens. Mais si c'est Robin Lehner, man, je suis encore plus confiant qu'on va y péter, man.
En combien? Tu penses qu'ils vont gagner ça en 6 ou genre, tu penses que c'est à la limite?
C'est la prophétie, man, en 6 le soir de la Saint-Jean, man. Faites attention à vous autres, ici.
La fête provinciale de la province du Québec?
Oh oui, monsieur, le 24 juin, on clinch notre billet pour la finale de la Coupe Stanley, big. Si tout s'est joué dernière game, man, les Knights, tu nous avais d'un câble jusqu'à temps que Fleury chine gaffe, esti, donne le puck à Anderson, et voilà. Notre billet d'avion pour la finale.
Esti, hein?
Yeah, boy.
On peut-tu parler du fait que le Canadien est 3-3 pour sortir le premier centre de l'autre équipe? Ou genre un des deux premiers centres de l'autre équipe?
Attends, je rephrase. L'équipe que le Canadien affronte est 3-3 pour sortir son premier centre. Peut-être juste Tavares, là. Tavares, c'était un accident. Ben,
Stevenson, là. Stevenson et tout, là, c'est un accident.
Ah, mais j'ai pas vu comment il s'est blessé, sauf Stevenson.
Big. En fait, c'est pas un accident, c'est un coup à la tête, là. Mais c'était pas un gros coup à la tête, mais c'est un coup à la tête, là.
D'un joueur du Canadien?
Ouais, puis je me rappelle même plus c'est qui. Ben, c'est vrai, c'est comme il a voulu compléter sa mise en échec, mais il y avait genre le coude haut. Puis il a juste crissé un petit coup de coude. Puis Stephenson, il a même pas tombé ni rien. Il a juste mangé le coude d'en face. Il a continué sa game. Puis après, la game, il filait pas. Il a passé les protocoles. Puis ils se sont rendu compte qu'il y avait une commotion cérébrale. Puis là, pour ça qu'il n'a pas pu continuer. Il a fini sa game. Puis tout, fait que ça n'a pas été genre, oh shit, Tavares sort en civière, la grosse affaire. C'est vrai que dans le cas des Jets, c'est le premier centre. C'est sorti lui-même en esti, là. Comme, hey, tabarnouf, Mark Shively, man. Quel revirement, man.
Raisin.
De carrière, genre. Tu sais, ce gars-là, il a jamais...
Tout le monde l'aimait.
Ouais, c'est ça, il était aimé de tous. Un bon travaillant, crise de joueur talentueux, pis tout. Pis là, non seulement il est vu comme quelqu'un qui a sorti un esti de dirty hit, mais qui a, genre, réagi de la pire manière possible, genre, ou presque.
L'organisation des Jets au complet s'allie par ça, mais le gros, on se mettra pas à parler des Jets ici, c'est pas une date.
Ils doivent jouer au golf à Winnipeg s'ils ont le temps. S'ils font assez gros, ils ont le doigt.
Il y a encore de la neige, le gros, à Winnipeg, esti.
Sûrement, man. Mais... C'est ça le pire, c'est que c'est triste là-bas.
Mais nous autres, notre coach, il a pogné le COVID, big, fait qu'ils peuvent bien aller chier avec leur premier centre. Puis je pense que ça, là, c'est tout du karma pour Chris Kreider en 2014, man.
Ah ouais, tu penses que c'est la reverse...
C'est le reverse jinx, man, whatever, là, genre, ça nous revient, man, il était à Asti, Calis, pis gros, on s'en va en finale de la coupe, Asti, it's fucking go.
Mm-hmm.
Faber, donc, est-ce que hier, tout le monde, hier, Faber me dit que le Canadien avait conquis son cœur, tabarnak.
Ben ouais, ils sont durs à pas aimer, là, on va se le dire.
Yes!
Gros mais c'est parce que moi, je vais vous le dire, là, ben honnêtement, là, ce qui me gosse, là, puis ce qui me fait encore un peu chier par rapport au fait qu'ils gagnent cette année, c'est que j'aime vraiment pas Marc Bergevin, là. Mm-hmm. J'aime vraiment pas Marc Bergevin, j'aime vraiment pas ses décisions qu'il a prises. Puis oui, il a fait des bons moves puis tout, mais en ce moment, c'est comme, même avec tout ce qui arrive, je suis pas capable de regarder le Canadien de Montréal puis de dire « Oh, cette équipe-là mérite 100%. » Oui, ils méritent dans le sens qu'ils ont travaillé pour, ils travaillent fort, mais c'est pas une équipe de finale 4 de la Ligue nationale. Tu comprends? Alors, puis l'an prochain, ça le sera pas non plus. Puis l'année d'après, ça le sera pas non plus. Puis c'est... Il faut changer la mentalité. Puis oui, Toffoli, c'est un signing incroyable. Je ne vais jamais dire le contraire de ça. Moi, personnellement, j'aurais essayé de dépenser mon argent sur Alex Pietrangelo cet été. Je ne l'aurais pas dépensé sur Tyler Toffoli.
Parce qu'on n'a pas dépensé Toffoli, on le paye 4 millions.
Non, je le sais, mais je pense pas qu'on pouvait signer deux.
Ah, on verra bien, gros, man, mais gars, man, prends. Je suis d'accord avec toi, là, notre équipe, là, t'as regardé, là, puis on a bien des bons jeunes. On a des astis de vieux def, puis on a un bon goaler. Bergevin, là, il essaie de faire ce qu'il peut, là, mais il n'y a pas la recette. Là. Fait qu'on va en profiter pendant que ça vient. Je suis d'accord avec toi. Mais Molson, il ne va pas y donner un autre 8 ans là, à Bergevin. Là. Il va donner un 3 ans. Arrange-moi pour qu'on retourne en finale d'ici 3 ans. Si c'est pas le cas, t'es dehors, mon chum.
Ah, hey man, c'est juste que moi, je rêve du jour où comme le Canadien de Montréal. Puis là, je vais faire attention à ce que je veux dire, mais c'est comme... Ils ont une équipe semblable aux Leafs de Toronto. Je veux pas qu'ils deviennent les Leafs de Toronto puis qu'ils soient la meilleure équipe du monde pour te décevoir en première ronde à toutes les années. Là. La dernière chose que je veux, écoute, j'écoute le podcast à Steve Dangle puis je veux pas finir dans l'état que lui est parce que même lui est en train de devenir un fan du Canadien tellement que son âme est broken. Genre. Mais je rêve du jour où le Canadien, on a tellement des Caulfield, Suzuki, Kotkaniemi, on a tellement des bons jeunes, même, je trouve. Ouais. Je pense que Price, quand il va vieillir, il y a de quoi le remplacer avec un Caden Primo. Je pense qu'on a un bon petit team de jeunes, on a un des meilleurs prospect pool de la Ligue nationale. Puis la seule affaire que j'aimerais, c'est que l'équipe prenne les steps pour devenir une équipe élite. Puis ce qui nous manque, Calis, c'est pas compliqué. Si tu regardes les games, c'est pas compliqué. C'est un défenseur, sacrément. C'est un bon défenseur élite qui sait patiner. Puis ça, tu l'auras pas en échange. Puis tu l'as pas eu en échange en échangeant Piqué Subban. Même s'il joue 25 minutes par match chez Weber, il est pas bon. Il est pourri, Calis. Il est absent, man. Il est pas là. Petrie, avec ses doigts cousus ensemble, Asti joue mieux que chez Weber. Tu sais, chez Weber, il est juste là 25 minutes à ne pas trop faire de gaffe. Mais c'est pas ça. Tu sais, gros, check Alex Pietrangelo de l'autre base, score 2 buts par game, il est clutch, esti. Il est toujours sur la glace. C'est ça que ça nous prend. Puis je pense que c'est ça que ça prend dans la Ligue nationale moderne pour gagner. Parce que check les derniers gagnants de la Coupe Stanley. Il n'y avait toutes pas des équipes absolument élites. Il n'y avait toutes pas des goalers absolument incroyables. Il y avait tout un esti de bons défenseurs élites. Toute la gang. Puis je pense que c'est ça qu'il nous faut. Puis c'est ça que Bergevin n'a pas l'air de comprendre, même encore avec cette année. Puis tout, il n'a pas l'air de comprendre ça. Il a l'air d'être un gars qui va encore vouloir améliorer l'attaque, encore vouloir aller rajouter des éléments à notre offensive. Puis tu peux toujours améliorer l'offensive, mais si tu as Chariot puis Edmondson puis une gang de gars qui ne sont pas mobiles, à part Petrie qui est mobile, tu as Kulak qui est mobile, de Gustafsson qui est mobile, mais Kulak et Gustafsson sont bien rien que mobiles, puis sont genre défensivement assez ordinaires. Pis, tu comprends? On n'a pas
le gros, on est en demi-finale de la Coupe, Steve Faber. Tu feras ça l'année prochaine, le gros, man.
Je le sais, mais Calis, moi, j'aimerais ça que mon équipe, là, le Canadien de Montréal, mon équipe d'enfance, soit une super puissance comme dans le temps, qu'on n'aille pas à se dire « Hey, vont-tu faire les séries cette année? » Genre que ça soit assumé, là, que ça soit c'est une des puissances, ils vont faire les séries, ils vont être des meilleurs, ils vont être dans le Final 4 avec le Lightning, avec les Knights, avec l'Avalanche, avec... C'est ça que j'espère de mon équipe. Pas qu'on soit une équipe de 8e place, qu'un an sur 8, on est lucky, puis on se rend en finale de la conférence pour aller se faire décollisser à gueule en finale par le Lightning de Tampa Bay. Je suis désolé de vous annoncer ça. Même hier, ils ont perdu, mais Calis, ils perdaient 3-0. Ils ont réussi à remonter ça à 3-2. C'est un esti d'équipe de par rapport. Puis oui, c'est des tricheurs, puis ils vont chier, puis je les haïs. mais je les aime plus que les Islanders qui sont l'équipe la plus boring qui me rend la plus indifférente dans toute la ligue. Mais c'est juste ça pour dire, je souhaite du jour où mon équipe va être élite, genre, puis va être dominante, puis je pense pas que c'est avec Marc Bergevin que ça va arriver. Fait que c'est le seul côté qui me rend encore un peu triste. C'est que oui, là, le présent, cette année, où on est en demi-finale de la Coupe, c'est malade, la ville, le Québec au complet capote, mais c'est quand qu'on va revivre ça, genre, dans le futur, avec cette équipe-là.
Ah, mais le gros, parce au début
L'an prochain, je sais même pas si on fait les playoffs. On recommence à jouer contre le Lightning puis les Bruins. Puis,
ben, tu prendras pour les Leafs, le gros, l'année prochaine. Stie.
Je vais toujours un peu prendre pour les Leafs. Je l'aime.
Ben, c'est ça.
C'est une belle équipe.
Ouais, fuck that, Calis, man. On est en finale de la Coupe.
Les Leafs vont finir par gagner la Coupe une fois dans pas long, nécessairement. Là. Ça va faire comme Washington contre Tampa. Là. Quand on va, quand on va les avoir label les chokers par excellence, ils vont rien que genre gagner.
Gros, ça fait 3 ans que c'est les chokers par excellence.
Ça fait bien plus que ça, là, mais genre, depuis que Matthews et Marner sont là, ils n'ont jamais passé à la deuxième ronde. Puis
c'est ils n'ont jamais passé à la première, Big.
Mais c'est exact ça que je voulais dire. Je me suis trompé dans mon vocabulaire, mais puis c'est pas si gros. T'as 4 joueurs à 11 millions. Là.
Go Habs go, esti.
Fuck yeah, man. Go Habs go, pour vrai. J'espère, man, qu'ils vont. Mais. Quand je t'ai dit, le gros, on arrive en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning. Contre le Lightning, c'est peut-être un esti de cauchemar, man.
Je suis d'accord avec toi, Big, là. Si tout ce que t'as dit, je suis d'accord avec toi, mais gros, profite-en, on est en demi-finale de la Coupe, esti. Si on a réussi à passer Toronto, Winnipeg, puis Vegas, là, c'est pas Tampa Bay qui va me faire chier, là, gros.
Ben, gros, man, honnêtement, ils ont. Toutes les séries qu'on va avoir passées au travail, il n'y en aura pas une de plus dure que celle contre le Lightning.
Ouais, mais tu le sais que Kucherov il va se blesser première game, anyway.
Je pense pas. Je pense que Kucherov il est autant en mission que Carey Price. Tu sais, Greg, la semaine passée, qui me disait si le Canadien sera en finale, t'as pas le choix de donner le Connie Smith à Carey Price. Genre coûte que coûte, comme ils ont fait avec Giguère et Anaheim, ils ont perdu. Puis il y a une partie de moi qui veut dire oui, mais l'autre partie de moi qui check genre les 24 points de Kucherov depuis le début des séries, puis qui est genre ouais, c'est le Lightning gang. Pas un bel choix de donner ça à Nikita, là.
Ah, je suis d'accord avec toi, Big.
Yup, fait qu'à suivre, man, bon, on peut pas dire que c'est pas excitant. C'est ce qu'on peut pas dire, c'est que c'est pas complètement ridicule, débile.
Puis qu'on check du hockey au milieu du mois de juin, Big, ça c'est malade et tout, là.
Ouais. Big, c'est rare que mon intérêt fait pas puh dès qu'il se met à faire 30 degrés. Moi, quand il fait chaud dehors, ouais. Le hockey, je suis comme les boys, là. On me met une game de balle, esti. J'aime même pas ça, mais. Yep, fait que ça va être ça le podcast. La seule affaire que je veux dire en conclusion, il y a Dominique Moreau là, dans les commentaires qui disait le gym le Samouraï MMA, il n'y a pas de maths là, dans le gym pis tout. Il dit dites à Samouraï d'acheter des maths. C'est pas leur gym, ok? C'est pas le gym de Samouraï, c'est un gym qui a un partnership avec Samouraï. Donc ce gym-là, Calis, achetez des maths. Parce que ça prend du jiu et de la lutte pour vos boys qui vont s'entraîner là. Mais je dirais pas ça à Samouraï parce que c'est pas leur gym. Mais c'était le Hype Poke podcast cette semaine, esti. Les boys. Merci à Carabine. Short notice. Encore une fois. Où c'est que les gens te suivent, le gros? Ils le savent, là, mais dis-leur.
Jean Desrobas, Virna Jean Desrobas, je t'aime. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.